Bonjour et bienvenue, je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @basilicpodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous. Cette semaine, à l'occasion de la quinzaine du commerce équitable, j'ai eu la chance de tendre mon micro à Mégane et Julie, toutes deux salariées de l'entreprise Arcadie. Dans cet épisode, nous nous intéressons aux épices, bien sûr, mais également à l'histoire de cette belle entreprise française qui a vu le jour il y a plus de 30 ans. Ayant grandi dans les allées des salons bio tels que Marjolaine ou Prime Vert, je connais la marque Arcadie depuis bien longtemps. J'ai eu la chance de me rendre à Méjane-les-Alès pour réaliser cet enregistrement et je peux vous dire qu'après avoir passé la journée sur place, je ne rêvais que d'une chose, être embauchée et participer au rayonnement de cette belle entreprise. Je suis très fière de vous proposer cet épisode aujourd'hui. Sachez qu'il a été réalisé grâce au soutien financier d'Arcadie. J'espère que cet échange vous plaira et qu'il vous fera voyager. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Julie, bonjour Mégane.
Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va très très bien, et vous ?
Ça va super, merci. Alors, on va commencer par des présentations afin que les auditeurs et les auditrices sachent qui ils écoutent et puis ensuite on poursuivra notre découverte d'Arcadie et de tout ce que vous proposez ici. J'ai la chance d'être dans vos locaux aujourd'hui, dans une merveilleuse région. Je me suis régalée sur la route pour venir, c'est vraiment fantastique. On a même le ciel bleu, donc c'est parfait. Est-ce que Mégane, tu peux commencer par te présenter s'il te plaît ?
Oui, donc moi je m'appelle Mégane Forestier, je suis chargée de communication digitale à Arcadie depuis 2 ans. Avant ça, j'étais à mon compte et j'ai ressenti le besoin, suite à ma grossesse, de trouver une entreprise et un projet qui ait du sens pour moi, surtout dans les métiers de la communication qui ont quand même un rôle assez important à jouer pour la transition écologique et qui ont depuis très longtemps participé à ce monde-là un peu trop consumériste et capitaliste. Et j'ai trouvé une offre d'emploi pour Arcadie qui proposait un projet qui en tout point correspondait à mes attentes, à mes besoins et à ce que moi j'avais envie de faire en professionnel et pour transmettre aussi ces valeurs-là à mon fils et au sein de ma famille. Donc je suis arrivée à Arcadie à ce moment-là et depuis je m'épanouis, on va dire. Voilà.
Et toi Julie, tu es responsable des achats.
Oui, donc voilà, je suis Julie Raymond, je suis arrivée donc à Arcadie dans les années 2000. J'ai fait ma formation à Arcadie, donc j'étais en apprentissage. Donc je suis plus axée production et qualité par ma formation. Donc j'ai commencé à travailler en production, puis en qualité. Voilà, puis les choses ont évolué. J'étais la 16e embauchée. Aujourd'hui, en fait, Arcadie compte plus de 115-120 personnes. Et j'ai vu en fait l'évolution... l'essor en fait qu'Arcadie a pu prendre. Et en 2015, donc je suis arrivée au service achat en tant qu'acheteuse. Et voilà, les choses ont fait que je suis maintenant responsable du service. Donc je m'occupe principalement du développement des filières exotiques à Madagascar et également le suivi des filières équitables en France.
On va y revenir, voilà, on va vraiment développer aussi cet aspect-là. Hein. C'était très important pour moi d'en parler dans cet épisode, puisque nous enregistrons cet épisode à l'occasion de la quinzaine du commerce équitable, qui est un grand événement. Et c'était vraiment une volonté de ma part que de consacrer un épisode à une marque engagée comme la vôtre. Arcadie fait partie des entreprises engagées dans une démarche de commerce équitable depuis plus de 20 ans. Et c'est vraiment ce qu'on va explorer ensemble. Avant ça, j'aurais aimé qu'on revienne un peu sur l'histoire de cette entreprise qui est quand même particulière, et notamment l'histoire des fondateurs de l'entreprise, à savoir Dominique et Bernard Kimmel. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, peut-être Mégane ?
Oui, alors Dominique et Bernard Kimmel, à la base, ce sont des personnes qui sont citadines et qui ont fait des études, alors il me semble de mémoire, en mathématiques pour Bernard. Et en fait, à la fin des années 70, ils ont eu l'appel de la Terre. Et ils ont tout plaqué pour aller vivre en Alsace. Et ils ont tout plaqué de leur vie alsacienne pour aller vivre en Ariège et pas en Ardèche, on confond souvent. Et ils se sont implantés en tant que producteurs de plantes aromatiques et médicinales bio. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de cahier des charges de la bio, pour ce type de production notamment.
On était en quelle année, tu as dit ?
Dans la fin des années 70. Et ensuite, ils se sont regroupés avec d'autres producteurs pour étoffer un petit peu plus l'offre des plantes. Parce qu'à eux tout seuls, c'est quand même assez compliqué de pouvoir produire beaucoup de plantes quand on est seul. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'entretien, beaucoup d'énergie. Donc ils se sont regroupés avec d'autres. Ceci étant dit, l'activité était fragile. Donc il y a des producteurs qui ont abandonné Dominique et Bernard parce qu'ils avaient besoin de sécurité financière. Et finalement, ils ont déménagé dans le Gard et ils sont devenus revendeurs et non plus producteurs de plantes aromatiques et médicinales. Et du coup, ils ont créé en 1990 Arcadie et ses deux marques. Donc Arcadie, c'est la maison mère en quelque sorte. Et les deux marques, ce sont Cook pour les épices et l'Herbier de France pour les plantes aromatiques et médicinales qu'on propose sèches en tisane. Et l'entreprise depuis bénéficie de l'essor du marché de la bio, donc on grandit en même temps que le marché de la bio grandit et on est un des acteurs majeurs qui propose les épices et plantes aromatiques en tisane uniquement en magasin bio, donc on est présent dans un peu plus de 3000 magasins bio si je ne me trompe pas. Et on est un petit peu leader de catégorie, notamment sur la partie épices.
C'est vraiment une marque emblématique. Je ne sais pas si les auditeurs et auditrices ont en tête le nom, mais le logo est très parlant. C'est un toucan ou un macareux. En tout cas, c'est un oiseau. Et voilà, c'est vrai que c'est très identifiable. C'est une marque qu'on voit partout quand on traîne un petit peu en épicerie bio. Donc, en 90, première importation d'épices par Dominique et Bernard. À l'époque, le terme commerce équitable, j'imagine qu'il n'existait pas ou peu, qu'il était très peu défini. Comment est-ce qu'ils s'y sont pris ? Quels ont été les produits qu'ils ont importés ? Comment ça s'est fait tout ça ? Parce que tu l'as dit, au départ, ils étaient producteurs, puis ils sont devenus revendeurs de plantes médicinales, j'imagine de plantes françaises à la base. Donc comment ça s'est passé en 90 ? On a du mal à imaginer tout ça.
Alors en fait, le terme de commerce équitable commençait un petit peu à naître à ce moment-là. Donc en fait, je veux faire un historique assez rapide. La première forme de commerce équitable en fait se développe aux États-Unis dans les années 40. C'est très ancien. Donc en fait, c'était avec les États-Unis qui achetaient dans les pays pauvres du Sud. Donc voilà, il y avait une notion un petit peu d'éthique, de prix juste qui commençait à naître, mais pas de label, pas de certification. En 1964, il y a eu la première reconnaissance internationale de ce qu'on appellera le commerce équitable, qui a été faite au moment de la conférence des États-Unis. Et c'est là qu'on a entendu le premier slogan, Trade, not aid. Ça veut dire qu'en fait, on était là pour faire du commerce, mais pas de l'assistanat auprès en fait, des populations pauvres. Et puis le commerce équitable en fait en France arrive dans les années 90 à peu près. On commence vraiment à parler de commerce équitable suite à l'association en fait Max Havelaar qui commence à se développer aux Pays-Bas. Donc ça arrive un petit peu en France. Et puis nous on a décidé en fait de choisir en fait le biopartenaire. Donc, qui a été créé, c'est une association qui a été créée en 2002, d'ailleurs qui va fêter ses 20 ans cette année. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était un label en fait, qui répondait réellement à notre besoin en tant qu'industriel. Voilà. Et puis pour répondre à ta question, en fait, la première importation, c'était un conteneur de girofle qui à l'époque couvrait plus de 10 ans en fait, de nos volumes, parce qu'à l'époque, on avait tout petit volume, on a voulu importer un conteneur. Et pour continuer dans l'histoire, en fait, les producteurs de ce conteneur de girofle à Madagascar sont issus de la même filière sur laquelle on est aujourd'hui. Donc voilà, là aujourd'hui, il y a une boucle qui est bouclée, quoi.
Donc 30 ans plus tard, vous travaillez avec les mêmes partenaires et plein d'autres, j'imagine, mais ces partenaires historiques sont toujours présents. Et Dominique et Bernard avaient vraiment cette vision d'un monde plus juste, plus éthique, ça leur tenait à cœur.
Complètement, complètement. Et puis on le voit déjà en interne à Arcadie. On en parlera peut-être après, de par notre façon en fait de travailler ensemble en tant qu'Arcadiens, parce qu'Arcadiens, nous sommes des Arcadiens. Et là, en fait, on s'est rendu compte que au niveau de Bernard et Dominique, nous ont vraiment initié ça. C'est-à-dire que le commerce se base en fait sur quelque chose de juste. Parce que sans cette justesse, au niveau des prix, au niveau des volumes, sans une vision à long terme, on ne peut pas en fait travailler correctement sur le plan commercial.
C'était quand même finalement un peu à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque, où on était dans un monde consumériste, les débuts de la mondialisation, on consommait vraiment différemment. C'était finalement assez innovant.
Complètement, et aujourd'hui on se rend compte qu'on est quelquefois à contre-courant. Le marché, aujourd'hui on voit que le marché de la bio, on ressent un certain ralentissement sur le marché de la bio. On pourrait se retourner vers des prix plus bas, parce que sur le marché ça existe, et sur les épices, aujourd'hui on peut trouver des épices à beaucoup moins chères que celles de nos filières. Mais en fait, pas du tout, pour avoir quelque chose de durable, nous avons besoin en fait de ce commerce équitable.
Alors, tu l'as dit, c'était de la girofle qui a été importée au début. Depuis, il y a eu bien évidemment un essor de l'utilisation des épices, hein, partout dans le monde. Certaines épices sont-elles cultivées de manière intensive ou en monoculture ? C'est vraiment un sujet qui m'intéresse, que je maîtrise peu. Et j'aurais aimé savoir comment est-ce qu'on cultive les épices. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir prendre exemple de toutes les épices, mais peut-être que Julie ou Mégane, vous avez des exemples à nous partager.
Alors oui, donc en 2018, j'ai eu la chance de me rendre à Madagascar. Donc j'ai pu voir en fait les différences en fait, entre nos cultures, de nos filières et des cultures autres qui sont en conventionnel ou même en bio. Parce qu'on peut faire de la culture intensive d'épices, même en bio, ça existe. Donc aujourd'hui, je vais prendre l'exemple du poivre ou du curcuma. Aujourd'hui, nos filières sont cultivées en permaculture, donc c'est-à-dire c'est des jardins. Ou alors de la forêt. On n'a pas l'impression en fait, qu'on est sur une zone de culture. Il n'y a pas du tout de déforestation. Enfin voilà, les arbres sont encore présents. Et en fait, à Madagascar, la culture du poivre, on peut trouver les cultures intensives. Des hectares et des hectares de poivre le long des fleuves, où il n'y a plus un arbre, où le tuteur, le poivre est sur un tuteur artificiel. Enfin voilà, des choses qui sont complètement aberrantes quand on sait qu'à Madagascar, quoi qu'on plante, pousse très très vite pour être le tuteur du poivre. Nous, en fait, c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas de soutenir ces filières. Aujourd'hui, en fait, les coûts de production de ces filières-là en permaculture sont beaucoup plus élevés en fait qu'une culture intensive. Pourquoi ? Parce que les producteurs doivent plus se déplacer pour ramasser leur volume. C'est moins facile, c'est des zones accidentées. Donc c'est ce qu'on a envie de soutenir avec le prix juste sur ce type de culture-là.
Voilà. C'est des zones sur lesquelles ils ne peuvent pas être aidés de machines ou
exactement,
très peu.
Exactement, les machines ne peuvent pas arriver sur les zones. Pour te donner une idée, sur la zone du poivre, on prend le 4x4 pendant une heure et demie, la première ville, donc c'est une toute petite ville, une heure et demie de 4x4, 2 heures de pirogue, 3 heures de marche, et là on arrive sur la zone du poivre. Et cette zone, en fait, il n'y a aucun matériel agricole qui peut arriver sur cette zone. On est sur une zone de montagne. Les arbres, les tuteurs pour le poivre sont des arbres qui font 1 mètre de circonférence. Il y a le cacao, il y a la vanille qui est mélangée donc, sur ces zones de poivre. Il y a le café et d'autres épices présentes. Mais en fait, moi, ce qui m'avait surpris surtout, c'était la diversité en fait, des cultures sur une toute petite zone. On se rend compte que la biodiversité est complètement respectée, et c'est ce qu'on a envie de soutenir avec les contrats équitables et payer le prix juste justement pour pouvoir éviter en fait d'aller vers le prix le plus bas et la culture intensive.
Le prix le plus juste, ça veut dire que c'est un prix qui n'est pas indexé sur aucun cours ou marché financier.
C'est ça. Alors, à la baisse, voilà, je vais quand même mettre un petit bémol sur le commerce équitable parce qu'on est quand même une entreprise commerciale, il ne faut pas l'oublier. Non. Donc, c'est vrai, quand les prix sont très bas, le cours du poivre peut avoir il y a un cours du poivre mondial, il peut y avoir des très, très fortes baisses, surtout en fait sur les pays asiatiques, mais qui impactent forcément le prix à Madagascar. Nous, en fait, le contrat équitable permet en fait d'établir un prix plancher, c'est-à-dire au-delà, au-dessous duquel nous ne pouvons pas acheter.
D'accord.
Voilà. Donc en fait, ça prend en charge tous les coûts du producteur, plus sa rémunération et les coûts de la structure en fait qui fait les exports.
L'équivalent d'un prix minimum en fait.
C'est ça, c'est le prix du minimum ou le prix plancher. Et puis par contre, pour la vanille, nous avons ce prix plancher qui n'a absolument rien à voir avec le cours de la vanille, parce qu'en fait la vanille subit en fait les variations mondiales. Et en fait, quand le prix s'envole, les producteurs en fait veulent vendre plus cher. Donc à ce moment-là, nous suivons le prix du marché, nous sommes obligés, sinon nous n'avons pas de vanille. Parce qu'en fait, le coût de production est nettement plus bas que le prix du marché.
Pour rebondir un peu sur ce que disait Julie par rapport à certaines entreprises qui font de la bio-intensive, vous avez certainement dû entendre parler de la ferme bio des 1000 vaches. C'est effectivement des choses qui existent pour les épices et les plantes. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que peut-être que le meilleur moyen pour se protéger de ça, c'est prendre le temps de se renseigner sur les marques et de privilégier les magasins bio spécialisés. Où pour le coup les marques sont généralement beaucoup plus exigeantes en termes de qualité. Nous par exemple à Arcadie, même si ce n'est pas une exigence du label de la bio, on fait constamment à l'arrivée des matières premières des analyses. Alors il y a les analyses basiques microbio pour éviter les insectes, la prolifération de bactéries. Et puis, il y a les analyses pesticides qui ne sont pas obligatoires dans le cahier des charges de la bio, puisque c'est un cahier des charges avec une obligation de moyens. Mais nous, on y ajoute l'obligation de résultats pour être certain que, effectivement, les produits qui sont issus de nos partenariats sont bien exemples de pesticides et d'engrais chimiques et de synthèse. Donc voilà, il faut essayer de se renseigner en fait quand on est conso, qu'on est devant un magasin avec plein de choix différents, il faut prendre le temps d'essayer de se renseigner sur les marques, sur leurs engagements, sur ce qu'ils font en réalité sur le terrain et privilégier aussi le circuit court, en fait un partenariat direct entre l'agriculteur et l'entreprise. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Julie en parlera certainement tout à l'heure, mais on essaie vraiment de privilégier un contact direct avec les producteurs, même si avec le label biopartenaire, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué, puisque nous, on parle de regroupement de producteurs, mais encore une fois, elle en parlera. Et pour continuer sur la vanille, le poivre, elle parlait du fait que le poivre et la vanille sont issus souvent à Madagascar, dans le cadre de notre filière, des mêmes cultures. Il faut savoir que la vanille, comme le poivre, ce sont des lianes. En fait, ce ne sont pas des arbres, c'est des lianes qui ont besoin de tuteurs pour pousser. Et les meilleurs tuteurs qui puissent exister, c'est les arbres qui sont issus et qui sont endémiques des îles où ces plantes poussent. Et la vanille a quelque chose d'assez particulier parce que c'est une plante qu'on cultive depuis tellement longtemps qu'il n'y en a plus en sauvage. En fait, il faut savoir que la vanille, la vanille en tant qu'épice, c'est le fruit en fait de la plante. Et ce fruit-là, pour devenir ce qu'il est, il est pollinisé de manière artificielle. C'est ce qui fait aussi que la vanille est une épice très chère. C'est parce qu'en fait, c'est les mains de l'homme qui vont venir prendre au sein de la fleur chaque les organes en fait dont elle a besoin pour être reproduite et donner le fruit. Et c'est fait avec un instrument particulier, avec une minutie. Il y a vraiment un savoir-faire.
C'est pas un geste qui peut être automatisé.
C'est pas un geste qui peut être automatisé. En fait, à la base, la vanille Bourbon donc est originaire d'Amérique centrale et elle a été un petit peu disséminée un peu partout au fur et à mesure du commerce international, tout simplement. En fait, les insectes qui permettent de polliniser cette espèce-là de vanille n'existent pas à Madagascar, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de les polliniser de manière manuelle. Et c'est ça aussi qui fait que la vanille, en partie, hein, il n'y a pas que ça, mais c'est ça aussi qui fait que ça coûte cher. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il faut essayer de la préserver, de la prendre en bio et en équitable. Et aussi, il y a l'usage que les consos, les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui en feront. La gousse, c'est la matière avec laquelle on peut faire le plus de choses. On peut l'infuser dans du lait, on peut en faire du sucre vanillé, mais il ne faut surtout pas la jeter dès la première utilisation. Jamais. Parce que la vanille gousse regorge encore d'énormément de saveur et d'arôme. Il faut simplement peut-être la doser un petit peu plus, la laisser infuser un peu plus longtemps. Et puis, si vraiment elle est épuisée, eh bien, on la laisse plusieurs semaines dans un pot avec du sucre et ça fait du sucre vanillé, tout simplement. On peut la broyer aussi pour en faire de la vanille poudre. Alors, la vanille, c'est quand même quelque chose qui a pas mal d'huile essentielle, donc qui est un peu difficile à broyer comme ça. On peut la laisser sécher et la mettre dans un mixeur ou la broyer avec d'autres épices ou d'autres matières pour en faire quelque chose d'utilisable différemment. Et on n'est pas obligé non plus de faire que de la pâtisserie avec. On peut l'utiliser pour du poisson, ça s'utilise très bien avec du poisson, et avec d'autres épices, il y a certains poivres qui se marient très bien avec la vanille par exemple, ça pousse au même endroit, donc c'est pas pour rien, j'ai envie de dire. Donc voilà sur ce que je peux dire sur la vanille, et sur le poivre, c'est pareil, on parle pas d'un poivre, on parle des poivres. Par contre, il faut savoir que poivre vert, blanc, rouge, noir, c'est la même plante. C'est le poivrier noir, du coup, qui est aussi une liane comme la vanille. C'est juste que c'est des degrés de maturation qui sont différents. En fait, pour la plante, donc le poivre, c'est le fruit, c'est la baie, en fait. Il y a le poivre vert, qui est le fruit immature. Il y a le poivre rouge, qui est le fruit le plus mature possible, qui a souvent la réputation d'être le meilleur poivre parce que le fruit a pleine maturité. Et en fait, le poivre noir est issu de la baie qui est entre le jaune et le marron et qui peut donner, selon la méthode de séchage qu'on va avoir, soit du poivre blanc qui est issu de trempage dans de l'eau pendant 24 à 48 heures. Et en fait, c'est la coque marron qui s'enlève à ce moment-là. Soit, si on sèche au soleil, poivre noir. Et en fait, parce qu'il y a séchage au soleil, le poivre développe des saveurs différentes, en fait. Et généralement, le poivre arrive en degré de maturité forte, plus il va développer de saveurs et du coup, parfois, de piquant. Même si ça dépend aussi du terroir. Le poivre de Campote, c'est pas le même que le poivre de Sichuan ou le poivre de Madagascar. Le poivre noir de Madagascar, il a un truc particulier. Il rappelle vraiment la terre rouge. Il est un peu boisé et en même temps, il y a des saveurs un peu fruitées. Alors que le poivre de Campote rouge, il est un peu plus métallique, un peu plus braisé et beaucoup moins piquant. Le poivre noir de Madagascar, il est quand même un peu fort. mais dans tous les cas, voilà, quand on choisit un poivre, on choisit aussi un terroir en fait différent et une pluviométrie qui est différente puisqu'il y a aussi le climat tropical qui se développe sur ces îles-là. Et puis c'est pareil si on le choisit en grain ou moulu. En grain, à mon sens, il est meilleur que moulu parce qu'on peut choisir un peu comment on a envie de le moudre, si on le veut en gros concassé gros ou si on préfère tout petit, tout fin. Et c'est pareil, typiquement le poivre de Campote rouge sur les salades de fruits, il est juste exceptionnel, quoi. Donc pas que salé.
Ouais.
Essayez des choses nouvelles.
La diffusion des saveurs est aussi différente selon le grain et comment on le travaille. C'est hyper intéressant, je ne savais pas du tout pour le poivre toutes ces subtilités. On va le déguster différemment. Est-ce que vous, chez Cook, vous proposez des mélanges préfaits, pré-imaginés en fait, pour que les arrangements soient parfaits pour assaisonner nos plats, etc. avec différents types de poivre et de maturation ?
Alors, on a des mélanges avec différentes épices. On a des mélanges qui contiennent du poivre, effectivement. Après, nous, on vend... nos poivres sont vendus en grains. Le poivre de Madagascar, on le fait aussi en concassé et en poudre. Mais sinon, on a du poivre de Campote rouge-noir et du poivre noir Madagascar qu'on intègre aussi dans nos mélanges. Hein. Mais c'est très rarement... À part le mélange 3B, c'est très rarement les mélanges les plus où il y a le plus de poivre. L'épice qu'on vend le plus en mélange, c'est le curcuma. Ficelle, où on l'a pratiquement dans tous nos mélanges, parce que le curcuma, c'est aussi très bon, donc on le met un peu partout. On est accro au curcuma.
On va en reparler du curcuma, parce que c'est une épice qui va intéresser, je pense, les auditeurs et les auditrices. Merci pour ces précisions, Mégane, c'était très intéressant. Julie, ça m'intrigue de comprendre comment est-ce que vous travaillez, et lorsque vous décidez de travailler avec une nouvelle filière, ou alors d'intégrer une nouvelle épice à votre gamme, comment est-ce que vous allez faire ? Donc, tu as parlé d'un partenariat avec Biopartenaire, c'est ça le nom ? D'une association, donc c'est ça ?
Alors, en fait, Biopartenaire, c'est une association de commerce équitable. Donc, il y a un référentiel. Donc, pour nous expliquer les règles, en fait, du commerce équitable, quels critères on doit cocher pour pouvoir être certifié Biopartenaire et pouvoir apposer donc la marque Biopartenaire sur nos produits. C'est une association qui garantit le commerce équitable des filières.
D'accord.
Pour pouvoir être certifié Biopartenaire, on doit répondre à certains critères. Donc en fait, il y a une base du commerce équitable. La base, c'est les contrats sur plusieurs années, donc pour donner de la visibilité aux groupements de producteurs, le prix minimum ou prix plancher, ce dont on parlait tout à l'heure. Et puis après, on doit avoir le versement d'un fonds de développement. Le fonds de développement, en fait, n'est pas le même. Si on fait du commerce équitable en France ou du commerce équitable dans les pays tiers, ce qui est normal, les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc en France, avec Biopartenaire, on est sur 1%. Donc 1% des achats sera versé au groupement de producteurs sous forme de primes, des achats de l'année. Et pour les filières exotiques, on est sur 5% en fait, du volume des achats, sachant que les épices... C'est des produits qui sont relativement onéreux. Donc, en fait, les fonds de développement peuvent être très importants et on peut avoir des très gros projets. Donc, sur les filières dont parlait Mégane, poivre et vanille, donc c'est nos plus gros achats en équitable. Aujourd'hui, il y a des très, très gros projets en fait, qui ont vu le jour à Madagascar grâce à ce fonds de développement. Et ce fonds de développement est à l'usage en fait, des communautés, pas forcément que des producteurs. Donc, c'est pour vraiment avoir quelque chose de plus pour la communauté. Donc au départ, on était les premiers fonds de développement ont servi en fait à la canalisation des eaux de ruissellement dans les villages, parce que dès qu'il pleuvait, en fait, on se retrouvait dans les villageois se retrouvaient avec 30 cm d'eau dans les cases, et c'était pas forcément uniquement pour les producteurs, c'était vraiment pour tout le village. Donc là, le dernier gros projet qui a pu voir le jour sur la filière poivre et la filière vanille, c'est la création d'un centre de soins de santé. Ce qu'il faut dire, c'est que tout ce que j'expliquais tout à l'heure, en fait, la distance de la première ville, en fait, par exemple, pour les femmes qui devaient accoucher, quand il y avait un accouchement qui était difficile, ben, malheureusement, les femmes n'arrivaient pas au village. Et là, donc, on a pu faire construire donc un centre de santé au cœur du village, donc pour les premiers soins, donc pour les accouchements, les soins, ben, avec la pandémie, voilà, il y a eu des soins à apporter. Et notre partenaire, en fait, finance le salaire des personnes soignantes, du personnel soignant. Donc une infirmière, une sage-femme, présente à temps plein, en fait, pour pouvoir donner de l'aide aux villageois. Et là, en fait, sur cette filière, là, aujourd'hui, il y a deux écoles qui sont en train de voir le jour, parce qu'il y avait des instituteurs, mais il n'y avait pas la structure pour accueillir les enfants. Donc, en fait, c'était des cases qui étaient un petit peu fatiguées, on va dire. Donc là, en fait, on va pouvoir faire l'inauguration de ces écoles, donc au mois de mai, lors de notre prochaine visite sur place. Et donc, pour répondre à ta question, effectivement, nous, quand on veut développer donc un nouveau produit, aujourd'hui, notre stratégie, c'est vraiment d'aller vers des filières existantes sur des petits produits. Donc là, Mégane parlait du poivre de Campote. Aujourd'hui, on a déterminé, par nos recherches, une filière. Donc, bon, faut savoir que le poivre de Campote, c'est une toute petite zone, vraiment, au Cambodge, qui est vraiment, vraiment toute petite, il n'y a pas énormément d'acteurs en bio. Et donc, on a sondé, on a discuté, on a regardé un petit peu le feeling qu'on pouvait avoir avec les personnes qui proposaient ce poivre de Campote. Et une filière, en fait, s'est révélée à nous. Elle était certifiée, donc, Fair for Life. Donc, c'est un label de commerce équitable fourni par EcoCert. Donc, un label sérieux. Donc, nos filières exotiques sont certifiées Fair for Life. Donc, déjà, c'est une garantie pour nous, en fait, que les pratiques sociales et environnementales sont respectées.
Ça veut dire que ce sont des filières qui sont auditées aussi. Donc, il y a une vraie vérification.
Il y a une vraie vérification. Mmh. C'est pas des, des, des certifications autoproclamées, quoi. Il y a vraiment l'audit Fair for Life, c'est un audit très 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 poussé sur les pratiques sociales, les pratiques environnementales. Voilà. Et donc on a senti qu'on avait de l'ADN un petit peu commun avec la personne en fait qui porte cette filière. Donc on a décidé de faire un premier achat sans contrat équitable pour voir un petit peu comment se passait la réception de la matière. Est-ce que c'était une matière qui était complètement conforme à nos cahiers des charges ? Parce que comme le disait Mégane, on a un cahier des charges au niveau qualité qui est extrêmement sévère. On est très exigeant en termes de pesticides, de qualité. Enfin voilà, on fait énormément d'analyses à réception et en préachat aussi. On connaît en fait la qualité sanitaire du produit avant l'expédition de la matière. Et puis, on a reçu donc nos premiers lots. Ça s'est très bien passé. La qualité organoleptique aussi est contrôlée donc à réception. On a des lots de qualité. Donc aujourd'hui, on sait qu'on va pouvoir partir sur quelque chose de plus engagé avec cette filière-là. Et donc en fait, aujourd'hui, pour pouvoir signer un contrat équitable, pour pouvoir vraiment être partenaire, on se rend dans le pays. Donc un de nos acheteurs, donc Jonathan, va se rendre donc au Cambodge pour aller auditer sur place, voir vraiment quelles sont les pratiques, aller vérifier ce qu'EcoCert a déjà vérifié, mais le voir de nos propres yeux, et se mettre d'accord pour avoir pour parler la même langue avec notre fournisseur. C'est quoi nos attendus ? Parler de notre éthique et lui aussi entendre en fait ses attendus, mais qu'est-ce qu'il attend d'un client. Et donc l'année prochaine, normalement, notre poivre de Campote sera certifié FFL et on pourra donc apposer donc la mention biopartenaire et soutenir la filière avec un fonds de développement à 5% du montant de nos achats.
Donc c'est un travail sur le long terme, on décide pas d'ouvrir une nouvelle gamme, enfin de créer une nouvelle gamme de produits, de choisir une nouvelle épice et hop, c'est parti.
Non, on n'achète pas aux traders. On ne fait pas du tout appel à ces personnes, on évite. Comme disait Mégane tout à l'heure, c'est vrai qu'on essaie d'être au plus près de la source. Donc travailler direct producteur dans des pays exotiques, c'est compliqué, parce qu'on n'est pas sur place, donc c'est très compliqué. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver donc un opérateur de production. C'est le mot dans le commerce équitable. C'est quelqu'un en fait qui va soutenir la filière, être là pour les producteurs, structurer la filière et souvent avoir des actions de transformation. Sur le poivre, par exemple, c'est la personne en fait qui va faire le dernier séchage du poivre, qui va le trier, qui va le mettre en sac, qui va s'occuper en fait de tout ce qui est certification pour les producteurs, parce que les producteurs sont certifiés aussi FFL. Donc en fait, il y a toute une organisation au niveau de la certification. Et donc nous, on essaie de travailler avec ces personnes, et c'est ces personnes-là qui sont de confiance.
Tu as mentionné des traders, ce qui signifie qu'on peut acheter ces épices sur un marché comme les marchés financiers presque.
Complètement. On reçoit tous les jours des offres de curcuma avec des prix où on se demande, quand on connaît le coût de production d'un curcuma, on se demande comment, et je me demande, à chaque fois que je vois ces offres, je me demande comment c'est possible d'avoir des prix comme ça sur le marché bio. Et c'est des produits bio.
Bio.
Bio. On n'est pas allé jusqu'à faire l'analyse parce que ça ne nous intéresse pas de travailler avec ces gens-là. Les analyses pesticides ont un coût. Donc c'est vrai qu'on évite d'aller gratter et puis à la limite, ça va nous apporter quoi ? Savoir si c'est bio ou pas bio. Mais en tout cas, elles se retrouvent sur le marché bio à des prix très très bas. Donc c'est vrai que quand on achète un produit bio, un produit fini bio avec un prix très très bas, il faut se poser la question surtout sur les épices.
Ça rejoint ce que disait Mégane tout à l'heure, de faire attention et presque de mener une petite enquête avant d'acheter des épices. Est-ce que c'est d'autant plus vrai pour les épices qui répondent à un marché assez particulier, en tout cas de ce que vous en dites ? J'ai l'impression que c'est un marché assez particulier.
C'est un marché qui est un petit peu parallèle, je dirais. Pourquoi ? Parce que la valeur ajoutée sur les épices est juste énorme. On le voit en France, voilà, les épices sont des produits assez chers. Et quand on voit des offres comme ça, en fait, la marge en fait, que la personne qui pourrait le revendre sur le marché français est très importante. Donc c'est vrai que c'est un marché qui... On a envie quand même d'aller, quand on est très attiré par l'argent, on a envie d'aller là-dessus. Après, c'est très compliqué. C'est très compliqué quand on travaille comme Arcadie, avoir des lots conformes en termes de pesticides. L'exigence pesticides est très très poussée à Arcadie. Donc c'est compliqué, on peut refuser des lots, même des lots achetés auprès de nos filières, nos propres filières, parce qu'il y a de la contamination croisée, parce qu'il y a un producteur qui a pu avoir accès à des produits phyto. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos produits, les produits phytosanitaires interdits en France et en Europe se retrouvent dans ces pays tiers. Les producteurs ne sont pas forcément au courant que par analyse, on peut retrouver ces produits dans, dans le produit fini. Quelqu'un sur un marché lui a dit, bah, si tu mets ça, c'est magique. Parce qu'en fait, à Madagascar, on croit beaucoup à la magie. Donc, c'est magique et tu pourras avoir 10 fois plus de production sans rien faire. Donc, en fait, c'est vrai que c'est tentant. Et là, aujourd'hui, on pourrait avoir, on peut avoir ce type de problème. On l'a de moins en moins. Pourquoi ? Parce que nos partenaires, les opérateurs de production, sont vraiment très présents sur les filières, vont faire beaucoup de sensibilisation auprès des producteurs, leur dire attention, si tu fais ça, en fait, c'est triché et c'est pas autorisé en bio. Mais en fait, n'empêche que ces pratiques-là existent même dans la bio. Nous, aujourd'hui, en fait, avec le nombre d'analyses qu'on fait, on analyse systématiquement tous nos lots, on n'a jamais trouvé de tricheurs. Des gens qui trichent volontairement parce qu'ils savent qu'avec des produits phyto, ils vont pouvoir avoir plus de rendement, moins travailler, avoir des coûts de production plus bas, voilà. En fait, moi, 22 ans d'Arcadie, je n'ai jamais pu trouver un tricheur. La seule chose qu'on trouve, c'est des contaminations, beaucoup de contaminations croisées. Nous, au service achat, en tout cas, on a rédigé donc on a une politique d'achat responsable. On communique énormément auprès de nos filières, auprès de nos producteurs, cette politique d'achat pour leur dire, nous, voilà, on a envie d'acheter comme ça. Megan a bien synthétisé tout à l'heure le circuit court, le moins d'intermédiaires possible, la relation de confiance, le respect de l'humain. On se rend bien compte que dans ces pays, des pays en voie de développement comme Madagascar, des pays très très pauvres, les dérives peuvent être très très rapides. Donc c'est vrai qu'on est toujours en train de sensibiliser notre opérateur de production, dire ben voilà, nous on a fait ça, Arcadie, on recherche ça dans nos filières, on a envie de communiquer sur ça et puis on a envie de soutenir ces filières-là. Et c'est vrai qu'en fait, il y a quelque chose qui m'est venu. Parce qu'en fait, on a pu avoir un nouvel acheteur à Arcadie et je disais, c'est quoi nos besoins en technique d'achat ? Voilà, je veux un acheteur, un vrai acheteur. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec que ce qui fait notre spécificité au service achat, c'est la relation avec le fournisseur. Le climat de confiance, mais n'empêche que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et ça, en fait, c'est une relation qui se crée. Et aujourd'hui, on va contrôler nos filières avec des partenaires avec qui on a confiance. On va contrôler juste pour être complètement droit dans nos bottes face à nos clients. Et les choses, en fait, sont simples. Et les filières, comme ça, sont maîtrisées. Et aussi, pour les filières françaises, parce que là, on parle beaucoup de ce qui se passe à l'autre bout du monde, mais on a quand même une action sur notre territoire français. Ben, de la même façon, aujourd'hui, quand on a envie de relocaliser une matière ou alors sortir un nouveau produit qui est déjà cultivé en France, ben, on va se tourner vers des opérateurs avec qui on travaille déjà. Donc, c'est vrai qu'on essaie d'aller vers des filières déjà certifié équitable pour être garanti en fait de pas faire entrer le loup dans la bergerie, parce qu'aujourd'hui il y a des gros acteurs en fait même sur le marché des tisanes françaises avec la production française déjà qui déstabilisent le marché au niveau du prix, qui proposent des prix très très bas avec des qualités vraiment médiocres et c'est vrai que ces gens-là on peut vite les faire entrer dans notre portefeuille fournisseur parce que sur les critères qualité pesticides, microbio, voilà, ils sont bons. Et donc en fait voilà, donc on essaie de faire de développer en fait plus de volume avec nos fournisseurs historiques.
Par exemple, en France, quel type de fournisseurs est-ce que vous avez ? Quel type d'épices vous vendez qui sont des épices françaises ? Parce que là, on a beaucoup parlé de plantes endémiques à d'autres régions du monde.
Alors, on a une filière propre hein, qui est très intégrée à Arcadie, c'est la filière bio Garrigue Méditerranée. Donc là, je peux donner le nom sans problème. Donc, c'est Bernard qui a l'initiative de cette filière. Pourquoi ? Parce qu'il y a une quinzaine d'années, on achetait du thym à l'étranger. On achetait du thym en Turquie, l'origan en Turquie, enfin voilà. Et donc, comme tu as pu le voir... Ici, en fait, le thym pousse de manière naturelle. Et on s'est dit, c'est complètement stupide. Il faut vraiment arriver à retrouver, en fait, cet historique de culture dans le sud de la France, avoir du thym français. Enfin, ça fait sens, quoi. Donc, en fait, cette filière a été montée sur 4 plantes. Donc, il y a le thym, le romarin, la sarriette et l'origan. Aujourd'hui, en thym, on est pratiquement couvert par cette filière. Donc, cette filière couvre la presque totalité de nos volumes. Sur l'origan, de la même façon. Le romarin, on est couvert. Et donc voilà, la sarriette, c'est pareil. On avait d'autres partenaires avec qui on travaillait. On a continué à travailler avec eux parce que ça, c'est aussi une qualité qu'Arcadia, c'est la fidélité. on ne change pas nos fournisseurs comme ça parce qu'on a une idée de développer autre chose. Donc voilà, on a un contrat équitable aussi avec ses fournisseurs, donc avec ses producteurs. Donc aujourd'hui, il y a une petite vingtaine de producteurs en fait qui composent Biocaribes Méditerranée. Et pareil, de la même façon, on est sur la base du coût des coûts de production. Donc chaque année, là, cette année, on a une discussion avec eux sur l'augmentation, par exemple, de l'énergie. On a des produits séchés, donc forcément qui sont séchés avec soit du gaz ou de l'électricité. Et forcément, donc, il y a une discussion qui arrive. Ben voilà, j'ai eu une augmentation de ça. Et puis là, il y a la discussion qui s'ouvre avec Arcadie pour savoir quel est le niveau de prix acceptable pour payer le prix juste aux producteurs.
Cette notion de prix juste, elle est vraiment évolutive, en fait, en fonction des actualités, du marché financier, etc.
C'est ça.
Et pour continuer sur le local et sur ce que disait Julie, à Arcadie, on a aussi des terres agricoles. Donc, on a racheté près de Méjane-les-Alès, qui est notre siège social. On a une ferme à Saint-Étienne-de-l'Olme. Alors, ce n'est pas une ferme qui fournit et qui répond aux besoins d'Arcadie, puisqu'elle produit environ 1,5 tonnes de matières premières séchées, triées, et qu'on met ensuite dans nos flacons, alors que nous, actuellement, on est sur 800 tonnes par an. Donc, c'est vraiment peanuts par rapport à nos besoins. Mais cette ferme, elle nous permet de faire plusieurs choses. Premièrement, d'expérimenter, puisque c'est une ferme sur laquelle on expérimente la biodynamie, l'agroforesterie. Donc, l'agroforesterie, c'est le fait, je tire le trait vraiment assez rapidement, c'est le fait d'allier des arbres et des arbustes avec les cultures. Et la biodynamie, c'est encore un peu plus complexe. J'aurais beaucoup de mal à le définir, mais la biodynamie, c'est voir la terre et les terres agricoles comme des êtres vivants qui vont avoir des besoins différents en fonction de leur terroir, en fonction du climat, en fonction de plein de choses. Et le principe même de la biodynamie, c'est d'éviter au maximum de travailler trop la terre, donc éviter trop de labour et ajouter des composants qui permettent de travailler la terre mais qui sont issus de cette même terre. Donc avec du compost, par exemple, il y a des préparats qui existent, etc. Donc c'est des choses qu'on expérimente sur la ferme via nos parcelles. On a de la sarriette, sur la ferme on a du thym, on a du romarin, je crois qu'on a de l'origan un petit peu. Donc voilà, c'est des choses qu'on expérimente avec une équipe qui est dédiée à ça. Et ça nous permet aussi, nous en tant qu'Arcadiens, de garder ce lien avec la terre et la ferme et notre service des achats que nous on appelle la source en interne, qui porte bien son nom, du coup travaille aussi un petit peu ensemble et échange beaucoup ensemble pour justement se nourrir de ces expériences. Donc il y a quand même quelque chose à Arcadie qui est très important et il y a ce lien là avec la culture paysanne qui est très important. Là cette année on a commencé un potager juste devant Arcadie, c'est tout petit, il y a une petite ligne.
Ça sent très bon quand on
voilà,
arrive.
Les Arcadiens volontaires peuvent venir s'occuper un peu du potager, mais il y a cette chose-là qui est très importante pour nous. Et chaque Arcadien est invité, quand il y a une période de récolte ou de semis, à venir à la ferme pour participer et pour conserver ce lien-là avec la terre. C'est très important pour nous, ça aussi.
Il règne une vraie cohérence, en fait, à l'échelle de l'entreprise.
C'est ça. On essaie de faire les choses en cohérence et en conscience, quitte à ce que parfois on ne les fasse pas. Alors là, je vais parler pour moi, mais en ce qui concerne le numérique et le web, c'est quelque chose qui a mis longtemps à émerger au sein d'Arcadie. Arcadie existe depuis les années 90, je suis arrivée il y a 2 ans. Donc les réseaux sociaux, Internet, c'est quelque chose qui est arrivé il y a tout juste 2 ans.
Ça n'existait pas.
Avant, les réseaux sociaux n'existaient pas pour Arcadie parce que ce n'était pas dans les valeurs des dirigeants et des fondateurs d'Arcadie. C'est arrivé parce que pour convaincre et pour essayer de transmettre nos valeurs à des consommateurs qui ne sont pas encore convertis, c'est ces outils-là qu'il faut utiliser. Pour autant, on essaie de le faire en conscience. Donc, dans chacun de nos services, on a vraiment cette cohérence et cette responsabilité, cette exigence. Nous, on travaille à communication sur de la communication responsable. Là, j'ai édité une charte de marketing d'influence responsable et on va plus loin sur beaucoup de choses et on essaie vraiment d'être précis. Typiquement, sur le gingembre, on ne dira jamais que notre gingembre est 100% équitable parce que ce n'est pas vrai. c'est 74% de notre volume qui est équitable. Et ça, on le précise. C'est des actions de communication responsable qui sont importantes pour nous, de même que la transparence avec tous nos clients, toutes nos parties prenantes, qu'ils soient fournisseurs, clients, conso, et pas que des fournisseurs, producteurs. On parle aussi des fournisseurs, par exemple, de machines, des fournisseurs de produits d'entretien. Parfois, on fait appel, très rarement, mais on fait appel à l'intérim. Mais pareil, on est très transparent, très exigeant. On est très attaché à la relation de confiance qu'on peut avoir avec nos différentes parties prenantes. Moi, typiquement, même si je peux travailler avec des influenceurs qui travaillent très bien, mais si ça ne le fait pas en termes de feeling, je n'irai pas travailler avec eux. Parce que ça, vraiment, Julie l'a dit sur les producteurs, mais c'est vrai pour tout. Il y a vraiment quelque chose du lien qui est très fort, Arcadie, qui est très important.
Tout à l'heure, Mégane, tu évoquais le curcuma en disant que c'était une épice que vous mettiez partout. Alors, personnellement, j'adore. J'adore le curcuma, j'adore sa couleur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'histoire de cette épice, toi ou Julie, n'importe. On a déjà évoqué l'histoire de la vanille, alors on ne va pas y revenir parce qu'on l'a pas mal mentionné. Mais le curcuma, je pense que ça peut intéresser les auditeurs et les auditrices de Basilic.
Alors, notre filière curcuma se situe en fait dans un petit village à Madagascar qui s'appelle Anivorane. Donc, je vous invite à aller voir un petit peu sur Google la zone. En fait, voilà, il y a un fleuve en fait qui traverse le village. Et donc, là, il y a 120 familles à peu près qui travaillent en fait sur notre filière curcuma. Donc, en fait, c'est des producteurs de curcuma uniquement. Parce que ce qu'il faut savoir à Madagascar, c'est quand on est producteur de curcuma, on fait que du curcuma. Quand on est producteur de gingembre, on fait que du gingembre dans ces zones-là. Donc, en fait, c'est le but aussi de notre travail, c'est de diversifier déjà les cultures. Éviter en fait que les producteurs soient trop dépendants d'une seule plante. Pourquoi ? Parce que les années où les volumes baissent, ben on est très responsable en fait de ça et on se dit mais comment en fait ces personnes qui font que du curcuma peuvent vivre. Donc ça rejoint en fait un gros projet qu'on a, voilà, on en parlera peut-être un peu plus tard. Et donc sur ces 120 familles, donc, ce qui se passe, c'est que c'est donc notre partenaire, je vais dire son nom parce que je suis très fière en fait de travailler avec cette personne. Il s'appelle Falflor. En fait, c'est une entreprise qui fait des huiles essentielles et des épices à Madagascar. C'est une entreprise familiale. Donc en fait, il y a un petit peu des similitudes, un peu le miroir en fait de ce que nous sommes. Donc en fait, c'est la deuxième génération qui a repris l'entreprise et donc gère cette filière de manière très intelligente et il y a une espèce d'interdépendance qui se passe donc entre Falflor et ses producteurs. Donc l'idée, Falflor fournit les rhizomes. Parce qu'à Madagascar, il y a quelque chose de très ancré aussi. Quand on peut vendre, on vend tout. Et on ne garde pas les rhizomes pour l'année d'après pour pouvoir refaire une autre production. Donc Falflor fournit les rhizomes, qu'il a gardé de la récolte précédente, parce que le curcuma, c'est une racine. Et là, en fait, commence en fait, le travail des sols. Donc on est sur des toutes petites surfaces, 1000-2000 mètres carrés. Crin maximum, au milieu des arbres, donc en fait quelques rangées, pas très droites, qui sont plantées à la main. Un des précédents fonds de développement avait, nous, les Français, on sait mieux que tout le monde, donc on avait dit non mais il leur faut des charrues, il y a des ébus, donc il leur faut des charrues. Donc on avait financé des charrues. Et donc lors de ma visite à Madagascar, les charrues elles n'ont jamais été attelées à un zébu parce qu'en fait on ne travaille pas comme ça. Donc voilà, donc en fait c'est vrai que le fonds de développement, il faut absolument que ce soit en fait les producteurs qui le gèrent. Et donc les rhizomes sont plantés, donc il se passe quelques mois. Et puis le moment de la récolte arrive, donc c'est au moment où la feuille commence à faner. C'est-à-dire que le rhizome est le plus gros, donc c'est le moment de récolter les racines. Donc on récolte avec une bêche ou avec un morceau de bois, enfin voilà, c'est très artisanal on va dire. Et puis là l'homme et la femme travaillent sur ça, donc on met dans des paniers les rhizomes, ils vont à la rivière, on rince les rhizomes. Donc Falflor vient avec les camions collecter le curcuma frais. Il est encore frais, il est encore entier, il a un rhizome, il a un sac, et là le producteur sait exactement combien il va être payé. Il est payé sur du frais. C'est comme ça, en fait, que fonctionne notre filière. Sur d'autres filières, en fait, quand on traverse Anivorane, c'est vraiment le village des curcuma. Il n'y a que du curcuma. Ça sent le curcuma, en fait, dans tout le village. Et là, en fait, on voit des familles qui coupent le curcuma, qui le coupent en petites lamelles, et qu'ils font sécher. Donc nous, avec Fireflore, en discussion avec Fireflore, on a décidé de ne pas continuer avec du séchage paysan. Pourquoi ? Parce que c'est des séchages qui ne sont pas maîtrisés. Donc on se retrouve avec les bâches, le curcuma qui sèche, les enfants qui jouent, les animaux, les chiens, qui passent sur le curcuma en train de sécher. Il y a vraiment un problème au niveau de la sécurité alimentaire. Donc nous, clairement, on ne peut pas se permettre de vendre ce curcuma-là. Donc le curcuma est ramené dans Katana, donc qui est la capitale, à peu près une centaine de kilomètres. Là, il est relavé avec des matériels industriels, des brosses. Il est coupé, on dirait à ce moment-là, des morceaux de carotte. Ça ressemble à de la carotte. Et là, il est passé dans des séchages, dans du séchoir industriel, dans des gros séchoirs que Fireflore a mis en place. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, on se retrouve avec un curcuma avec une qualité constante. On a toujours le même type de couleur, le même type de goût. Enfin, voilà, on n'a pas de surprise au niveau microbiologique. La qualité est toujours respectée. Et là, s'arrête en fait le travail de Fireflore. Mise en sac dans le conteneur et ça arrive à Arcadie. Toute la transformation, en fait, la mise en poudre, pour enlever le métal, tout ce qu'il pourrait avoir en fait, dans le curcuma en slice, on appelle ça des slices, des lamelles, est fait sur Arcadie. On n'achète jamais de poudre. Toute la qualité en fait, est sur la poudre et travaille à Arcadie.
Donc vous avez un pôle aussi de transformation ici.
Exactement. Mmh. Exactement, on achète nos matières. Quelquefois, comme le teint, les matières sont achetées prêtes à l'emploi. Ou alors elles sont achetées brutes et le battage et le tri se fait ici. Mais clairement, on essaie au maximum de laisser, en France en tout cas, le plus de transformation chez les producteurs. Les producteurs en fait qui arrivent à maîtriser en fait tout le circuit qualité. Pourquoi ? Parce qu'en fait la valeur ajoutée se fait à ce niveau-là. À Madagascar, sur le curcuma, ce qu'on a décidé, c'est de conserver un prix relativement élevé. Puisqu'on leur a enlevé la partie de séchage et la partie de coupe, on ne voulait pas aussi enlever en fait cette valeur ajoutée. Donc c'est pour ça que le calcul des coûts de production a été très important à ce niveau-là. Sur l'utilisation du fonds de développement, c'est très important parce qu'en fait, cette filière curcuma, c'est les femmes en fait qui gèrent le montant du fonds de développement. À Madagascar, ce sont les femmes qui gèrent les finances de la famille. Elles sont une très bonne gestionnaire. Quand j'y suis allée, donc en 2018, il y avait encore 16 000 euros sur le compte. 16 000 euros, je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte ce que ça fait, sachant que le salaire moyen à Madagascar, c'est 50-60 euros par mois. Donc on est sur un montant très très élevé. L'argent, en fait, n'est pas dépensé comme ça. L'argent est dépensé à bon escient. Parce qu'acheter des charrues qui ne serviront jamais, c'est pas un bon calcul. Voilà. Donc en fait, ce fonds de développement, par exemple, a financé donc, des radios solaires. Pourquoi ? Parce que les producteurs, déjà, pour pouvoir avoir la réunion de producteurs, pour savoir qui allait mettre quelle surface pour avoir quel volume, déjà, en fait, c'était 3 jours de marche pour aller chercher tous les producteurs, leur dire, là, ce jour-là, il y aura une réunion. Parce que les téléphones ne fonctionnent pas forcément, ne passent pas. Donc, en fait, la radio, c'était le bon système pour pouvoir se prévenir pour les réunions au départ et aussi pour d'autres usages. Quand les cyclones arrivent, par exemple, ils se préviennent. Ils sont assez éloignés, donc, en fait, les personnes peuvent se mettre à l'abri. Donc après, il y a eu des matériels pour l'école, parce qu'à Madagascar, ça coûte très très cher, en fait, le matériel scolaire. Voilà, donc en fait, et chaque dépense est votée. Il y a un bureau, en fait, qui se regroupe pour discuter de la dépense. Est-ce qu'elle fait sens ? Est-ce qu'elle ne fait pas sens ?
C'est très intéressant de comprendre aussi comment fonctionne ce fonds de développement et comment est-ce qu'on utilise cet argent. Mégane, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le curcuma ?
Alors, sur l'usage de l'épice en soi, le curcuma, c'est un cousin du gingembre. On le trouve un petit peu moins facilement en frais en France que le gingembre. Mais ceci étant dit, on peut l'utiliser en frais, râpé ou en lamelles ou directement en poudre et pour tout, pour plein de choses. Alors, ça a quand même des saveurs... Ça pique pas beaucoup le curcuma par rapport au gingembre. Ça a des saveurs assez chaudes et suaves, mais c'est très bien en boisson, simplement dans de l'eau fraîche comme ça, ou avec un peu de cumin. Ou voilà, le curcuma a cette particularité de se marier avec presque tout. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand je fais cuire du riz ou des pâtes, j'en mets une demi-cuillère dans l'eau directement, ça vient colorer le riz et ça vient lui donner aussi une saveur assez particulière en plus. Et on peut aussi l'utiliser en salé dans des biscuits aussi pour donner un petit goût un petit peu plus rond et différent aussi.
Dans du pain aussi, dans des recettes de pain.
Oui, dans du pain aussi. Alors moi, il y a une recette que j'adore particulièrement, c'est les scones au curcuma. Je suis tombée amoureuse de ces biscuits. Alors donc, les scones, c'est écossais. C'est des biscuits écossais avec de la crème fraîche. C'est des ronds, en fait. C'est des ronds assez hauts. Et donc, on a notre partenaire culinaire, Delphine Pocard, qui nous a fait une recette avec du curcuma dedans. Et remplacer la crème fraîche par du lait de coco. C'est juste extraordinaire. C'est très simple, il y en a pour 20 minutes, mais c'est très bon.
Je mettrai la recette dans la barre de description de l'épisode. Vous l'avez dit, les salariés de l'entreprise sont appelés les Arcadiens et les Arcadiennes, j'imagine, au féminin. Vous avez un mode de gouvernance qu'on appelle une gouvernance holocratique. Alors, je voulais qu'on développe un petit peu, on risque de manquer de temps, mais quand même, j'ai pas envie de sauter cette partie-là qui me semble aussi très intéressante et qui finalement prolonge la cohérence dont tu parlais tout à l'heure, Mégane. Qui veut nous en dire un peu plus sur cette notion de gouvernance holocratique ?
Holacratique.
Holacratique, pardon.
C'est très peu connu et ça commence à se développer. Donc, c'est un système de gouvernance qui amène une grande clarté dans les autorités et missions de chacun. Donc la hiérarchie est assez bousculée. Par exemple, Julie, responsable des achats, ça ne veut pas dire que c'est elle qui décide de tout au sein des achats. Chaque membre de son équipe a son propre périmètre d'autorité et réalise ses missions en toute autonomie. Pour autant, ça ne veut pas dire que les achats travaillent seuls dans leur coin, commerce travaille seul dans son coin, communication seul dans son coin. Bien au contraire, on fait beaucoup de sollicitations d'avis pour être certain que chacun au sein d'Arcadie soit aligné en fait avec les propositions des uns et des autres. Mais dans tous les cas, la décision finale revient à la personne dont c'est le périmètre autoritaire, en fait, tout simplement. Moi, sur les réseaux sociaux, je donne un exemple, je peux décider, moi, de publier ou de ne pas publier telle information. En revanche, les autres ont le droit de me donner leur avis. Et je suis libre de l'écouter ou pas, par contre. Donc, c'est un système qui amène une grande autonomie. C'est comme si chaque personne est entrepreneur de sa propre petite entreprise au sein de la grande entreprise qui est Arcadie, mais de manière très... En collaboration avec tous les autres. Ça évite les silos, en fait, au sein d'une entreprise.
Et pour terminer cet épisode passionnant et qui, je l'espère, aura passionné les auditeurs et les auditrices de Basilic, j'aime bien toujours m'intéresser aux projets et aux futurs projets des entreprises que je reçois au micro. Est-ce que vous avez des projets dans les tiroirs ?
On en a trois grands cette année qui sont très importants pour nous. Le premier, c'est le voilier. Donc, on est en train de se renseigner pour construire un voilier cargo qui ramènerait nos épices de Madagascar en France. Donc, c'est une solution, un transport d'épices décarbonées. Faut savoir que Madagascar, c'est plus de 20% de notre volume. Donc, ça veut dire que si on arrive à faire ce voilier cargo, on parvient du coup à quand même avoir un impact, une baisse d'impact assez significative sur notre activité. Pour ça, on s'est associé à un constructeur de voiliers modernes qui est Zéphyr et Boré. Et là, normalement, incessamment sous peu, je ne peux pas donner de date, mais on devrait solliciter nos consos pour qu'ils deviennent armateurs à nos côtés au moyen d'une campagne de financement participatif. Donc ça, c'est le premier gros projet cette année. Le second gros projet, c'est qu'on commence à être un peu à l'étroit parmi nos bâtiments. Donc, on a acheté en fait des terres juste en face de là où on est actuellement. Et on a le projet de s'agrandir, donc de construire de nouveaux bâtiments. Là encore, on fait un pas de plus vers une exigence encore plus éco-responsable, puisqu'on va essayer, on va utiliser un maximum de matériaux et d'énergie naturelle et renouvelable. Et on a vraiment la volonté de faire un corridor de la biodiversité. Et pour ça, on est accompagné par un bureau d'études qui est ouvert. Et c'est aussi quelque chose qu'on travaille, encore une fois, en tant que interservice. En fait, tous les Arcadiens qui veulent participer à ce projet le peuvent. Et le dernier gros projet qui est important, parce que de ce gros projet peut découler énormément de choses, c'est la vision à 10 ans. Donc, nos dirigeants ont entamé un processus de vision 2032. Donc, où sera Arcadie dans 10 ans. Et comme on ne fait jamais tout comme tout le monde, ce coup-ci, tous les Arcadiens participent à ce projet de vision. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont volontaires, et plus de la moitié des Arcadiens participent, peuvent donner leur point de vue et aider tout au long de l'année Arcadie à avancer sur ce travail. Donc la raison d'être, les valeurs, notre histoire, puisque du passé et du présent découle le futur. Donc c'est quelque chose qui va nous porter tout au long de l'année et qui peut accoucher de beaucoup de choses, des petites, des moyennes, comme des grandes choses. Donc c'est quelque chose qui est très important pour nous sur une année charnière où en plus de ça, on a une nouvelle responsable marketing qui va venir aussi challenger ça. Donc voilà les trois gros projets qui nous portent, voilier, bâtiment et la vision.
Vous n'allez pas vous ennuyer.
Du tout.
Merci beaucoup à toutes les deux. C'était passionnant d'échanger avec vous et d'en apprendre plus aussi sur ces épices du quotidien, finalement, qu'on connaît peu. J'espère qu'on aura l'occasion de réenregistrer un épisode d'ici quelques années quand le voilier cargo aura vu le jour et qu'on pourra même le faire sur le voilier, pourquoi pas. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci.
Merci.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, l'ensemble des ressources utiles sont disponibles dans la barre de description. Je vous invite à vous rendre sur le site d'Arcadie pour en savoir plus. Si cette écoute vous a inspiré, n'hésitez pas à nous le faire savoir en taguant Arcadie et Basilic Podcast sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et mangez épicé !